BFM Business et la Tribune présentent les experts. Ludovic de Sauté.
Bonjour, mercredi 29 avril, bienvenue dans les experts, là où l'économie se décode et se raconte sans détour. La voilà qui revient. Non, il ne s'agit pas de la chansonnette, mais de l'inflation qui revient par une porte qu'on espérait refermer dans la zone euro. Selon une étude de la BCE publiée hier, les ménages se préparent à une accélération des prix avec une inflation de 4% anticipée sur un an. Ce n'est donc plus seulement potentiellement un choc énergétique, s'installe désormais la crainte à confirmer d'une inflation qui s'enracine et se diffuse, avec à la clé le risque classique que redoute par-dessus tout la BCE, qui parlera demain, une boucle auto-entretenue prix salaire. Au sein de ce choc énergétique qui atteint tout juste les 60 jours, un carburant en particulier commence à être surveillé comme le lait sur le feu, le kérosène. Le blocage du détroit d'Ormuz a fait exploser son prix à tel point que certaines compagnies commencent à ajuster leur programme de vol, encore à la marge, faute de rentabilité. Mais une crainte bien plus aiguë agite peu à peu le secteur aérien, celle d'un accès limité au kérosène alors que se profile la saison estivale. Autre zone de tension, décidément cette fois, elle est plutôt géopolitique et industrielle, le bras de fer qui se dessine entre Bruxelles et Pékin. Début mars, l'Europe a présenté son projet d'accélération industrielle avec la volonté de sécuriser et de relocaliser une partie de la production en s'appuyant sur des règles plus protectrices et une préférence européenne assumée. Oui, mais voilà, la Chine a réagi en début de semaine et parle de discrimination et de possibles contre-mesures. Derrière ces mots encore diplomatiques à ce stade, c'est un rapport de force qui s'installe doucement mais sûrement sur l'automobile, les batteries ou encore les matières premières critiques. Les experts, c'est parti.
Les experts, débat et controverse sur BFM Business.
Bonjour, chers experts, merci d'être avec nous ce matin. On a le plaisir d'accueillir Guillaume Dard. Bonjour Guillaume, merci d'être avec nous. Président de Montpensier Arbevel.
Et vice-président de l'AFG.
Merci Guillaume d'être avec nous ce matin.
Pour citer l'AFG, quoi.
Emmanuel Combes, bonjour Emmanuel, merci d'être avec nous, professeur à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne et à la Schema Business School. Merci Emmanuel d'être avec nous. Et Jean-Marc Daniel, bonjour Jean-Marc, bonjour. Merci d'être avec nous, éditorialiste à BFM Business. Allez, on se lance parce que l'actualité est chargée et il y a pas mal de choses on a à surveiller. Hier, il y a eu une petite étude de la BCE qui donne des petits signaux d'alerte sur l'inflation, sachant que aujourd'hui la Fed doit parler, demain la BCE sur les taux directeurs. Ça tombe plutôt à un statu quo. Est-ce qu'on a vraiment un risque d'inflation qui commence? Guillaume, je sens que vous êtes parti.
Non, parce que je préfère parler avant mon maître Jean-Marc Daniel, dont je connais la thèse, et donc je peux comme ça présenter mes propres idées avant d'être assommé.
Si vous voulez, on coupe le micro de Jean-Marc.
Non, pas du tout, parce que c'est formidable, mais par l'intelligence redoutable et comme c'est un puits de science. Alors, l'inflation, d'abord, tel que l'on l'a défini aujourd'hui, c'est un terme relativement nouveau. Jusqu'au 19e siècle, ça désignait plutôt la baisse du pouvoir d'achat de la monnaie et ça faisait référence au fait qu'on rognait les monnaies d'or et qu'on faisait baisser la parité. Et donc, de ce point de vue-là, l'inflation, il y en a eu depuis toujours, puisque si vous prenez la valeur d'un dollar de 1900 et celle d'aujourd'hui, ben, ça vaut à peu près un cent, le dollar, et pour le franc, on sait même pas, on retrouve rien. Donc l'inflation, c'est un phénomène continu. Et deuxièmement, je suis tombé sur une définition par Jacques Rueff de l'inflation qui disait, au fond, l'inflation, c'est quand les gouvernements subventionnent des investissements qui n'ont aucune rentabilité avec de l'argent qui n'existe pas. Ça me dit quelque chose, ça. Et troisièmement, bien sûr, c'est là où vous avez évoqué le sujet, c'est que dans le triangle Gordon, la notion la plus importante de l'inflation telle qu'on la désigne aujourd'hui, c'est le moment où la boucle prix-salaire prend son envol, c'est-à-dire les prix montent, on augmente les salaires, comme les salaires augmentent, on augmente
la mécanique auto-entretenue.
De ce point de vue-là, en tout cas, en France, on n'y est pas. Mais l'inflation, pour conclure, c'est un phénomène permanent qui a des grandes pointes qu'on ait eues sur les 50-60 dernières années. C'est celle des années 70 qui avait démarré au moment d'une crise pétrolière et d'une guerre, puisqu'il y avait la guerre du Vietnam. Donc, je ne sais pas s'il va y en avoir ou pas, mais on a en tout cas les fagots dans le feu pour que ça puisse démarrer.
Alors, voilà. Jean-Marc, on vous laisse répondre à Guillaume, mais puis après, voilà. Avec Emmanuel, on compte les points.
D'abord, sur mon premier point factuel, il y a des périodes où il n'y a pas d'inflation, il y a des périodes où il y a la déflation. On parle depuis 1900, mais entre 1815 et 1900, les prix physiques baissent. D'ailleurs, les salaires sont fixés en valeur nominale, parce que c'est par la baisse des prix que va se transférer le pouvoir d'achat. C'est-à-dire la période où le pouvoir d'achat se transfère par des hausses de salaire, qu'on appelle en économie le fordisme, c'est-à-dire la période qui va être, elle, de nature inflationniste. C'est-à-dire on donne des hausses de salaire à tout le monde, il y a des endroits où ça correspond à des gains de productivité, donc c'est tout à fait absorbé par les entreprises, et il y a des endroits où ça ne correspond pas aux gains de productivité, et à ce moment-là, les entreprises augmentent leurs prix. Cette période-là est une période, elle, qui est relativement courte dans le temps, et on n'est pas dans ce cas-là. Donc,
on est en quel cas alors?
On est plutôt dans un cas, moi je pense qu'on va vers de la déflation. Pourquoi? Pour trois raisons. La première raison, c'est que d'abord, pour revenir à l'inflation, donc la définition que je prends régulièrement, à laquelle fait allusion Guillaume, c'est effectivement, dans tous mes papiers, je n'arrête pas de dire qu'il n'y a pas d'inflation, parce que il y a une définition qui est celle de l'INSEE, qui dit que c'est une hausse générale et durable des prix mesurée par l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Alors on peut considérer que c'est restrictif parce qu'il y a des prix qui augmentent qui ne sont pas les prix à la consommation. Le prix de l'immobilier, c'est pas un prix à la consommation, c'est un des enjeux de ce qui peut se passer. Donc là, je pense qu'on est pas en phase d'inflation. Au moment où ça a été le cas dans les années 60 à 1986, l'indice des prix à la consommation en moyenne augmentait de 8% par an. Depuis 2022, il a augmenté en moyenne jusqu'à aujourd'hui de 1,7%. Par an. Donc, on est en dessous des 2% de référence, même si, effectivement, là, je rejoins Guillaume, il y a un peu d'inflation, il y a un peu, quand même, de destruction du pouvoir d'achat de la monnaie, parce que les prix augmentent un peu. Mais, concrètement, si on prend, là aussi, la crise autour de l'Ukraine, je me souviens, tout le monde avait été extrêmement sévère avec Madame Lagarde, qui, à un moment donné, avait lâché ce mot en disant que c'est temporaire. Puis après, c'était reprise, elle avait dit, non, excusez-moi, je me suis laissé aller. Et il y a eu un papier excellent de Krugman en disant, ceux qui ont dit que c'était temporaire avaient raison, parce qu'il n'y avait pas d'inflation, parce qu'il y avait effectivement des hausses ciblées de prix, mais pas une hausse générale et durable. Deuxième remarque, très vite, pour qu'il y ait inflation, dans les années 60-70, on disait, il faut qu'il y ait une création de monnaie. Or là, il y a tout un tas de papiers qui sont sortis qui montrent que la création de monnaie ne se traduit plus par des hausses de prix à la consommation, mais par des hausses de prix des actifs. Donc il y a des prix qui montent, mais pas les prix qui correspondent à l'inflation, et notamment qui correspondent aux boucles prix-salaire. Et troisième élément sur la boucle prix-salaire, je pense que, alors c'est la grande question, effectivement, je pense qu'elle ne sera pas au rendez-vous. D'abord parce que les syndicats n'ont pas le pouvoir qu'ils avaient dans les années 60-70, où là ils avaient une capacité à générer une boucle prix-salaire.
Et le calendrier, en plus, n'est pas favorable.
Et ensuite, parce que quand vous regardez le salaire mondial, il y a un très bon papier de la Banque mondiale qui explique que à l'horizon des 10 ans qui viennent, il y a 1,3 milliard d'individus qui vont quitter la campagne dans les pays émergents pour rentrer sur le marché du travail salarié. Et c'est jusqu'à présent, dans les pays qui sont concernés, il y a eu une création d'emplois sur les 10 dernières années d'environ 880 millions d'emplois. Donc il vient y avoir à créer 1,3 milliard d'emplois dans une zone qui n'en a créé que 880. Et donc la Banque mondiale dit ça va faire une pression sur le salaire comme on l'a rarement vu. Et donc la Banque mondiale dit
l'impact. Et on ne parle même pas d'IA et de robots, là, avec.
Oui. Indépendamment de l'IA et des robots. Donc, simplement, ce phénomène-là, qui est le phénomène chinois, entre guillemets, c'est-à-dire la pression sur les salaires, et la Banque mondiale dit, on va vers une baisse du salaire mondial, qui est une des choses qu'on n'a pas vues depuis le 19e siècle, qui était effectivement la grande période où l'exode rural avait fait baisser les salaires. Et donc, je pense qu'effectivement, il peut y avoir des hausses momentanées de prix, il peut y avoir des pénuries de kérosène, il peut y avoir, mais la tendance lourde et durable.
Structurelle, on va dire.
Structurelle, ça va être à la déflation. Pourquoi je dis ça, pour conclure? Je pense que le véritable danger du discours sur l'inflation revient et tout ça, c'est que les gens qui sont endettés sont persuadés que c'est pas la peine de se faire du souci, que l'inflation va nettoyer leur dette. Or, qui est le plus endetté? Ce sont
on cherche.
Oui, on cherche. Et donc, ma grande crainte, c'est que tous ces gens-là qui disent, mais écoutez, c'est pas grave, on va faire un peu de dette publique pour baisser le prix des carburants, tout ça, de toute façon, l'inflation qui va suivre, on va nettoyer tout ça. Je pense qu'ils vont être véritablement assez rattrapés par la réalité.
Emmanuel.
Deux, trois remarques par rapport à ce que dit Jean-Marc. Il n'y a pas de boucle salaire.
Le pouvoir de négociation
des syndicats et plus généralement des travailleurs est trop faible pour qu'il y ait un emballement. Donc je ne crois pas du tout à cette idée.
Sachant que les NAO sont plutôt derrière en termes de calendrier.
En plus, comme le disait Jean-Marc, l'inflation, en effet, ce n'est pas un choc sectoriel, c'est un choc qui se transforme, qui se transpose à l'ensemble de l'économie et qui est permanent. Alors là où je ne serais pas forcément d'accord avec Jean-Marc, c'est que quand on regarde sur le très très long terme, il y a quand même des facteurs qui peuvent pousser à une inflation structurelle au sens des facteurs qui vont affecter l'ensemble de l'économie. J'ai nommé la greenflation. L'idée qu'à un moment donné, il va bien falloir verdir. Verdir, ça coûte plus cher, donc les coûts de production vont augmenter. Toute chose égale par ailleurs, si vos coûts de production augmentent, bah soit vous rognez vos marges, soit vous reportez ça dans les prix. Donc premier facteur structurel qui peut donner une greenflation, hein, ça avait été d'ailleurs théorisé par Isabelle Schnabel il y a 2 ou 3 ans, en disant voilà, demain, il n'est pas exclu qu'on ait de l'inflation verte. Ça c'est le
coût de la transition.
Et puis la tertiarisation des économies, on sait bien que le tertiaire, alors c'est vrai qu'il y a l'IA, les gains de productivité, mais le tertiaire, en tout cas, service à la personne. Or il me semble qu'on est dans des pays qui vieillissent, avec des personnes de plus en plus âgées. Ça s'appelle des services à la personne. Les gains de productivité sont quand même assez limités. Or, on le sait que l'inflation dans les services, c'est quelque chose de structurel. Or, les services, c'est quoi dans le PIB? C'est 90% à peu près du PIB. Donc, j'entends hein, l'argument qui est de dire il y a des facteurs structurels à la déflation. Il y a aussi des facteurs structurels, au sens strict du terme, qui vont affecter l'ensemble de l'économie. Et j'ai nommé transition verte et puis vieillissement démographique. Hein. Plus peut-être aussi des tensions sur le marché du travail à long terme.
Hein, parce que si vous regardez, citer un peu.
S'il y a des tensions, au bout d'un Jean-Marc. Moment, les travailleurs auront peut-être du pouvoir de négociation qu'ils ont perdu depuis. Voilà.
Mais le risque temps, hein. Numéro un, ce serait les conflits militaires. Les conflits militaires, c'est vraiment une dépense.
On y est, Guillaume, là.
C'est une dépense, contrairement à ce qu'on essaye de faire une petite musique disant c'est formidable, parce que quand on fait du développement militaire, ça fait du développement civil. Mais enfin bon, fabriquer des obus. Soit on s'en sert pas, donc ça sert à rien, soit on s'en sert, c'est pas formidable. Donc la guerre, c'est quand même un des facteurs inflationnistes les plus importants.
2900 milliards de dollars, je rappelle les chiffres du CIPRI en 2025.
À chaque moment de l'humanité quand même, Jean-Marc.
Oui, alors juste pour rebondir sur notre conversation que je trouve passionnante à titre personnel, même si je ne sais pas si les auditeurs le partagent, mais je pense qu'il y a d'abord un élément que je trouve assez intéressant dans ce qui se passe, c'est que l'inflation des années 70, c'est Friedman, on a tous été formés par Friedman, et donc la formule célèbre de Friedman, c'est l'inflation finit par être toujours un phénomène monétaire. Partout et toujours est un phénomène monétaire. Or là, ce qu'on vient d'aborder, ce sont des phénomènes qui sont extra-monétaire. C'est-à-dire que il y a ce constat qui est un constat que, effectivement, la gestion de l'inflation par la monnaie, par des références monétaires, par les taux d'intérêt, ne correspond pas à la réalité. Et je dis ça parce que ça veut dire qu'il ne faut pas que les banques centrales se mettent à ces... C'est le principe de base de la médecine, c'est primum non docere. Je pense que dans la phase dans laquelle nous sommes, si les banques centrales disent on va répondre à ce qui se passe par des hausses de taux d'intérêt, ça ne répondra pas à primum non docere. C'est-à-dire ils vont en rajouter sur une situation qui est une situation déjà défavorable.
Là, vous adressez à Jérôme Powell et à Christine Lagarde.
Jérôme Powell et à Christine Lagarde. Et c'est d'autant plus vrai que, vous vous souvenez, ce papier célèbre, enfin ce livre célèbre de Friedman, il l'avait écrit avec Anna Schwartz. Et j'ai retrouvé le texte d'Anna Schwartz de 2011, juste avant sa mort, où elle tombe à coups redoublés sur Bernanke, en disant qu'il n'a pas compris que maintenant, la quantité de monnaie ne fait plus l'évolution systématique des prix, parce que la vitesse de circulation de la monnaie n'est pas constante. C'est-à-dire que le principe monétariste, c'est que la vitesse de circulation de la monnaie est constante, et elle dit... Ce qu'on constate, c'est que nous l'avions constaté sur la période 1870-1930. Là, on ne le constate pas de la même façon. Le deuxième élément qui est évident, c'est que c'est l'histoire de la guerre. C'est-à-dire que là aussi, on reparle de Tchernobyl et de ce qu'était l'Union soviétique. Ce qui a coulé l'Union soviétique, c'était effectivement un budget militaire énorme et des dépenses sociales énormes. C'est-à-dire qu'on payait les gens à ne rien faire. Et on ne peut pas, effectivement, faire face à une économie avec des dépenses inutile.
Ah, ça dit quelque chose, ça, un peu.
Oui, quand même. Oui, absolument.
À quoi vous pensez, Guillaume?
Absolument. On n'est pas juste dans les livres de Friedman, là.
Là,
France,
on est
en 2026.
Oui,
quand même.
Oui. Alors, et donc, le véritable enjeu dans tout ça, c'est effectivement, est-ce que les États-providence vont être en capacité de se réformer? Et on revient à l'histoire de la productivité. C'est-à-dire que, est-ce que l'IA va apporter suffisamment de productivité pour compenser la faible productivité dans la gestion des EHPAD et pour compenser, effectivement, le maintien d'un État-providence très généreux? Et donc, je pense que pour l'enjeu, c'est pas la politique monétaire, c'est l'âge de départ à la retraite à 67 ans maintenant.
C'est la productivité.
Et la productivité qui est afférente.
Emmanuel.
Et autre facteur structurel à nouveau à très long terme, hein, qui peut pousser les prix vers le haut, c'est si ça se confirme une forme de démondialisation. La mondialisation, c'est une grande vertu. Enfin, tout le monde l'oublie. Ça exerce une pression concurrentielle, notamment sur les producteurs domestiques. Il y a une étude de Jaravel, hein, sur les États-Unis, suite à l'entrée de la Chine, donc les années 2000-2015, et il montre très bien que parmi les facteurs qui expliquent la modération de l'inflation aux États-Unis, il y a le marché du travail très concurrentiel avec notamment l'immigration, mais également l'ouverture à la Chine. Et si on va vers un monde plus démondialisé, on va y revenir tout à l'heure avec le Made in Europe, faut pas se raconter d'histoire. Ça coûte plus cher.
Avant qu'on aille dans le sujet préféré des Manuels, il n'y a pas besoin d'aller aux États-Unis pour faire l'étude.
Ah oui, en France aussi.
On aime bien répéter ce que dit Jean-Marc, c'est que acheter un manteau dans les années 70, c'était toute une aventure pour la plupart des familles. C'est-à-dire que ce n'était pas quelque chose qui passait. Alors qu'acheter une doudoune.
C'était une décision.
Ouais. C'était une décision. Acheter une paire de chaussures. C'était un investissement, ça se passait dans les familles. Bah, évidemment, il ne fallait pas être le cadet parce que vous aviez les chaussures des aînés. Donc,
c'est du vécu, ça.
Pardon.
Et donc, tout ça, grâce à la production chinoise, a disparu. C'est-à-dire que le sujet de l'habillement, alors sans aller jusqu'à Chine ou à Temu, est devenu un non-sujet pour la plupart des familles.
Avec la fast fashion.
Avec la fast, mais juste avec la baisse des prix. C'est-à-dire que c'est incroyable, même l'ameublement, ça a été une baisse très forte. Donc tous ces coûts qui étaient très significatifs dans les budgets ont changé complètement grâce à la Chine.
Et ils exercent une pression, par rapport à notre sujet de l'inflation, la menace des importations exerce une pression sur les producteurs domestiques dès lors qu'ils veulent augmenter les prix. Bah, ça se traduit. Donc on sous-estime le fait que non seulement on a gagné en pouvoir d'achat en important, mais ça a modéré les tentations des producteurs domestiques d'augmenter leurs prix. Hein, cet effet concurrentiel de la mondialisation
a tendance... Ça a plus zigouillé, mon cher Emmanuel.
Non, mais l'un n'empêche pas l'autre.
Ça a plus zigouillé le textile français.
Je suis pas tout à fait d'accord, ça dépend si c'est sur du haut de gamme. Si t'es sur du haut de gamme, t'as pas zigouillé.
Non, mais le textile français, il est plus là. Non, mais d'ailleurs, c'est un vieux sujet depuis toujours. On avait un déficit commercial. Je relisais le Louis XIV de Bluche, discussion entre Louis XIV et Colbert, en disant, on a du déficit commercial, comment est-ce qu'on fait? Il faut développer la compétitivité hors prix. C'est formidable. Alors, on crée les Gobelins, on crée Saint-Gobain, on fait venir les experts en France, et puis on dit, non, mais ce qu'il faut pour qu'on ait de la qualité, il faut qu'on norme. Alors on va dire, il faut que le marché à tisser, je ne suis pas sûr du chiffre, mais enfin il faut qu'il y ait une largeur de 1,24 m, ou je ne sais pas ce que ça faisait en pied, en pouce, en toise. Et là, tout d'un coup, on a demandé à tous les industriels français de détruire leur métier à tisser. Bon, je peux vous dire que le déficit commercial ne s'est pas amélioré. Mais ce sujet existe depuis toujours et comme disait Jean-Marc, pendant ce temps-là, c'était pas à Mumbai, mais c'était où à Madras, on fabriquait des indiennes et on les envoyait en France.
Oui, je pense que le véritable enjeu dans tout ça, c'est l'arrivée dans l'activité économique mondiale du paysan indien. C'est-à-dire le paysan, il est très indien, il est peu productif. On va le mettre dans. Là aussi une anecdote personnelle. Je me suis occupé à un moment donné de la dévaluation du franc CFA et je me souviens d'une réunion au FMI où je disais le véritable enjeu pour les pays africains, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire de leurs paysans. S'ils en font des fonctionnaires, ils sont foutus. S'ils en font des ouvriers, c'est l'avenir de la croissance économique mondiale. Et donc je pense que il y aura pas d'inflation, il y aura de la croissance si on arrive à bénéficier de la transformation du paysan indien en ouvrier.
Ça n'a pas du tout marché.
Mais non, mais le paysan
indien. Ça n'a pas du tout marché.
Le paysan chinois est devenu.
Travailler en Côte d'Ivoire au début des années 80, où c'était la thématique en disant il y a de l'agriculture, il faut développer l'agro-industrie, donc on développait le textile. Le textile africain a été liquidé. Donc ça n'est pas si facile. Et quant aux Indiens, dont tu parles souvent, il y a un sujet là. Où est l'Inde sur l'IA ? C'est absolument incroyable. Moi, j'aurais parié que l'Inde, intelligent, avec l'intelligence, la créativité, et tout, on aurait eu une offre indienne. Elle est nulle part. C'est-à-dire que, autant sur les services informatiques, ils ont été...
Ultra présents,
très rapides, sont développés. Alors qu'ils ont les meilleurs ingénieurs, c'est plus dur de rentrer dans les meilleures écoles d'ingénieurs indiens que de rentrer à Harvard, parce que le taux de sélection est d'1 sur 1000, donc c'est absolument difficile. Ils apprennent la table de 1 jusqu'à la table 200 quand ils sont en fond. Donc, pour calculer, ils savent calculer. mais ils sont pas là sur l'IA. C'est absolument incroyable.
Je voudrais revenir quand même. Là, vous avez un éclairage savoureux, hein, mais sur un temps long, il y a un temps plus immédiat. Hier, la Banque mondiale montrait que dans le meilleur des cas, on allait traverser l'année en cours 2026 avec une hausse du pétrole de au moins 24%, une hausse des matières premières plus de 16%. On voit qu'il y a des problèmes de supply chain qui sont en train de se dessiner quand même depuis, on est aux 60 jours là, de la guerre, du conflit en Iran et au Moyen-Orient, de façon plus globale. Il y a quand même une bosse qui se dessine en termes d'inflation dans les mois qui viennent. Au-delà du grand mouvement, de la grande lecture qui est la vôtre, il va y avoir une situation à gérer dans un pays où les marges sont faibles et on est à quelques mois d'une présidentielle.
Oui, il va y avoir une hausse de prix, c'est clair, une hausse de prix de certains produits. On en revient au fait que certains produits augmentent, d'autres vont baisser. Et donc, au moment où il y a des gens qui manifestent contre la hausse des prix du carburant, vous avez en ce moment nos agriculteurs qui manifestent contre l'effondrement du prix des fraises.
Croisent la hausse du prix des engrais.
Et on parlait de la Côte d'Ivoire. En ce moment, il y a des mouvements en Côte d'Ivoire parce que le prix du cacao s'est littéralement effondré. Et donc, la question qui se pose...
Après avoir triplé.
Ah oui, après
il
avoir triplé.
Il est revenu au prix d'avant.
Oui. Le véritable enjeu, c'est comment est-ce que ça va se répercuter dans la chaîne finale et tout ça. Mais ce qui a d'important, c'est qu'effectivement, dans ces prévisions de court terme qu'on pourrait penser extrêmement fiables, je disais tout à l'heure dans le couloir qu'aujourd'hui, c'est le 20e anniversaire de la mort de Galbraith, John Kenneth Galbraith. Pourquoi je m'en souviens? Parce que c'est moi qui ai fait la rubrique nécrologique dans un grand quotidien du soir. Et donc, je racontais que sa dernière formule, ça avait été « J'ai commencé ma vie d'économiste avec des mathématiciens, je la finis avec des astrologues. » Et donc, il disait cette espèce de profusion de la prévision et tout ça. Alors, il avait une forme d'humour assez assassin, mais il disait « En fait, le véritable problème, c'est pas que tellement les économistes fassent des prévisions, c'est que leurs prévisions sont biaisées par deux choses. La première chose, c'est que ils essaient de satisfaire les gens qui vont leur poser des questions, donc ils répondent aussi ce que les gens attendent. Et deuxièmement, ils ne réalisent pas toujours le fait les conséquences de ce qu'ils racontent. Et donc, dans toutes les prévisions de la Banque mondiale, je pense quand même que dans tout ce qu'a dit, et notamment pas la Banque mondiale, mais Madame Georgieva, le FMI, elle a insisté quand même sur le fait que on savait pas si allait se passer et tout ça, mais que la réponse par les finances publiques et par les politiques budgétaires était de plus en plus difficile à réaliser. C'est-à-dire que chaque crise qui arrive, comme on n'a pas résorbé les conséquences de la crise précédente, on a un outil budgétaire qui est en train de tomber totalement en désuétude.
Emmanuel ?
Non, mais je partage l'avis de Jean-Marc, mais j'espère ne pas être M. Irma. Hein.
Allez, un peu d'astrologie.
Je vais revenir aux fondamentaux. Aux fondamentaux pour répondre à votre question. Va-t-il y avoir de l'inflation dans les mois à venir ? En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est un choc d'offres. C'est un choc qui affecte les coûts. Sauf que l'inflation, elle peut être aussi portée par un choc de demande. Or là, on voit bien qu'on n'y est pas. On a plutôt des ménages français qui épargnent, je ne sais plus à combien est le taux d'épargne,
18% à peu près.
C'est du jamais vu depuis les années, des années 70. Ce qui n'était pas le cas en 2022. Hein. En 2022, il y avait un choc d'offres, mais aussi un appétit de consommer, de désépargner suite au Covid. Hein. Donc là, on est plutôt, donc vous avez deux effets contraires. D'un côté, vous avez un choc d'offres. S'il est suffisamment généralisé, en effet, coût de transport, matières premières, il peut se diffuser. Et en même temps, vous avez une demande qui est relativement atone. Ça s'appelle d'ailleurs la stagflation. Hein. C'est-à-dire potentiellement, pour avoir de l'inflation avec une demande relativement faible. Donc attention, qui elle-même va affecter l'inflation. Donc la thèse qui est de dire l'inflation va être durable, spontanément, j'y crois pas trop. D'abord, comme le disait Jean-Marc, c'est un choc intemporaire. Deux, pour l'instant, il ne s'est pas diffusé. Trois, il n'y a pas de boucle salaire. Et puis, du côté de la demande, c'est pas terrible. Quand vous regardez le comportement d'épargne des ménages, on pourrait même avoir des ménages qui épargnent encore plus parce qu'il y a de l'inflation.
Bon, enfin, tout
un
ça
effet,
va
un peu un effet pigou, hein.
Guillaume.
Emmanuel a raison, mais ça va dépendre de la durée du conflit.
Il y a 15 jours, on se disait la même chose.
Monsieur Irma est capable de répondre.
Voilà, mais c'est pour ça qu'on est tous dans l'espoir absolu que tout ça va se régler, que ça va s'ouvrir, qu'on va revenir assez vite vers 70 dollars pour le baril de pétrole, ce qui est le prix à terme à décembre a remonté un peu. Là, il est à 77, ce qui est un peu haut. Début d'année, pour donner raison à Jean-Marc sur Madame Irma, le consensus c'était prix du pétrole en 2026, 55 dollars le baril. Je ne sais plus si c'est le WTI ou le...
Aujourd'hui, on est dans les 100, on va dire.
Aujourd'hui même, on est autour de 100, suivant le Brent, si on est sur le Brent ou le WTI. Ouais. Et le prix à terme à décembre, et sur le WTI, était à 78. Donc, c'est-à-dire que le marché lui-même, pour l'instant, espère encore que ça va pas durer. Personne ne sait effectivement dans quelles conditions on va être. Et autant je suis d'accord sur le fait qu'il y a peu de chances qu'il y ait une boucle prix salaire qui se mette en œuvre si, disons, au moment des vacances de juillet-août, les prix à la pompe redescendent. Autant si ça dure jusqu'à septembre-octobre, là, c'est une autre affaire parce que, alors, il y a la position française et puis il y a la position mondiale. C'est-à-dire que ce qui est difficile, c'est notre capacité d'insurrection latente. Et comme vous l'avez dit, dans la période précédant l'élection présidentielle. Et il y a trois semaines, avec Raphaël, j'avais regardé, j'avais
expliqué Raphaël
Legendre, dans cette émission, quelle avait été la réaction au 73 de l'État français. Et ce qui est intéressant, c'est que l'état d'esprit était très différent. C'est-à-dire que la réaction du gouvernement était de dire « il faut protéger la France ». Ce n'est pas protéger les Français. Il y a eu quelques vagues mesures catégorielles. C'est-à-dire que le débat était de dire « bon, bah, alors il faut accélérer sur le nucléaire, il faut réduire notre consommation ». Il y avait un peu des bêtises du genre « on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ». Mais on avait réduit la vitesse de circuit sur les autoroutes. Question, évidemment, personne n'oserait en parler compte tenu des gilets jaunes. Mais le débat central était comment est-ce qu'on
On le retrouve néanmoins un petit peu, ce débat, sur les renouvelables aujourd'hui, quand même.
Oui, à la marge. Mais aucun gouvernement, enfin en France, le gouvernement est tellement sous pression qu'il ne peut pas juste dire, écoutez, bon, bah, vous allez souffrir, mais on va sauver la France et dans 10 ans, ça ira mieux. Notre préférence pour l'immédiateté est telle que je vois, c'est pour ça que je dis qu'on sera dans une situation compliquée si on se retrouve avec un pétrole au-dessus de 100 dollars à la rentrée
en septembre.
Dans la perspective de l'élection présidentielle.
Oui, la différence par rapport à cette période, c'est que le prix du pétrole était géré par des gens qu'on pouvait clairement identifier, c'est-à-dire l'OPEP. On savait qu'ils étaient passés de 2,7 dollars à 11,7 dollars le baril, et puis ça allait rester à 11,7 dollars le baril.
Et les Émirats ont claqué la porte hier.
Et là, maintenant, on voit bien que le prix du pétrole n'est plus géré, entre guillemets, par aucune instance. Je ne suis pas favorable à l'idée qu'il faille rétablir un monopole sur le fond, un cartel sur le... Mais je dis, là, et on en revient à ce qu'on disait, c'est-à-dire on ne sait pas si en septembre ce sera à 55 dollars le baril ou si ce sera à 120 dollars le baril. Alors qu'en 73, on savait qu'un an après, ce serait toujours à 12 dollars le baril.
Oui, mais ça a recommencé 5 ans après avec justement déjà les événements en Iran en 79. Donc souvenons-nous qu'on a eu double choc pétrolier. Hein, et le choc de 73 et le choc suivant. Et c'était quand même plus compliqué parce qu'il y avait aussi la notion d'embargo pétrolier. C'est-à-dire qu'il y avait eu la hausse des prix, mais Jean-Marc s'en souvient bien. Ils avaient décidé de baisser de 5%, je sais pas, c'était production. Donc on avait non seulement peur, on constatait la hausse des prix, et on avait la peur de l'embargo et de la raréfaction du pétrole.
Oui, d'autant plus qu'ils avaient désigné un certain nombre de pays comme étant, en 73, comme étant des pays où arrêteraient de livrer du pétrole.
La Hollande,
Pays-Bas,
tous les pays
Portugal,
qui avaient soutenu Israël. Était visé par
l'embargo.
On
va marquer une pause. De toute façon, on va continuer à discuter pétrole puisqu'on va parler kérosène et après on va parler industrie. On se retrouve dans un instant donc dans cette grande émission d'astrologie désormais les experts. À tout de suite.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business. BFM Business et la Tribune présente les experts. Ludovic de Sauté.
De retour sur le plateau des experts avec nous ce matin, Guillaume Dard, Emmanuel Combes et Jean-Marc Daniel. Allez, on reste à peu près sur le même dossier, c'est-à-dire les conséquences de cette crise et de ce choc énergétique qu'on est en train de vivre et de commenter sur une durée de temps qu'on n'arrive plus à estimer aujourd'hui. Avec un dossier quand même qui prend de l'ampleur au fil des jours, au fil des mois, c'est maintenant puis qu'on en a 60 jours, l'histoire du kérosène où les alertes se multiplient, on a encore vu ce week-end une compagnie low cost comme Transavia revisiter une partie de son programme de vol sur mai-juin. Et puis on découvre aussi une situation derrière assez particulière, une forme de dépendance de l'Europe hein, dans le domaine, c'est-à-dire à la fois sur ses capacités de raffinage et aussi sa dépendance par rapport aux pays du Golfe. Hein, 50% du kérosène européen vient directement.
Quand est-ce qu'on va trouver une bonne nouvelle pour l'Europe où on aurait gagné de l'indépendance?
Alors, c'est le coup de gueule de Guillaume.
Sur toutes les chaînes. Ouais. de supply chain, on s'aperçoit que Emmanuel a des arguments qu'il va donner, mais on est en train de faire partout. Et au passage, là, je parle un peu sur la gestion. C'est les États-Unis sont en train de manger toute la gestion européenne. En 2007, c'était à peu près des poids égaux entre l'industrie de la gestion européenne et la gestion américaine. Aujourd'hui, c'est 80-85%. Et pour l'instant, les autorités européennes ne défendent absolument pas l'industrie de la gestion européenne. Et la gestion, à la limite, on pourrait s'en moquer de l'industrie de la gestion. C'est le fait qu'on peut faire irriguer les capitaux vers l'Europe au lieu que... Parce que, bien entendu, il y a forcément un biais de l'acteur qui va faire que si c'est un acteur américain, et déjà le marché américain étant le plus grand, ça oriente les capitaux vers là-bas. Alors, en dépit de ce que Mario Draghi a dit, en signalant qu'il y avait, et d'autres l'ont répété, qu'il y a plusieurs centaines de milliards qui partent chaque année de l'Europe vers les États-Unis, on continue.
Alors, on va maintenant, on va s'attaquer au kérosène.
C'est la même chose pour le kérosène, hein, les raffineries qui ont fermé. Ouais.
Emmanuel Combes, c'est un dossier que vous connaissez particulièrement, d'autant plus que vous sortez dans le transport aérien, une question revisitée. Alors déjà, est-ce qu'on se fait un peu peur ou pas? Enfin, que révèle cette tension sur le kérosène d'Europe, déjà?
Faut faire attention avec les mots. Ouais. Il n'y a pas de pénurie à date généralisée. Il peut y avoir...
Patrick Pouyanné s'est fait reprendre là-dessus.
Au niveau de certains aéroports, qui rationnent, des petits aéroports d'ailleurs, il peut y avoir des problématiques. Mais il n'y a pas de pénurie. Non, ce qu'il y a, c'est un choc. À nouveau, un choc sur...
Alors là, c'est Roland Lescure qui se fait reprendre quand il a dit choc.
C'est un choc sur les coûts. le jet, il faut bien comprendre, vraiment en deux mots, c'est un marché très particulier.
C'est le nom technique du kérosène.
Carburéacteur, il n'y a pas de substitut. C'est des raffineries designées pour cela. C'est un tout petit marché mondial en termes de production et c'est un tout petit marché en termes de commerce. En réalité, les pays produisent leurs jets souvent pour eux-mêmes. Donc déjà, il y a très peu de flux commerciaux. Ce qui veut dire que dès que vous avez... un des trois en l'espèce qui est bloqué, le prix flambe. Ce qui est normal, puisque le marché est étroit, forcément les prix surréagissent. Le prix du jet a doublé. Ça s'appelle un choc de coût. Quand vous avez un prix qui double et que vous êtes une compagnie aérienne, quel que soit le type de compagnie, on pourra y revenir si vous voulez, low cost, pas low cost, le coût carburant, c'est à peu près 25-30% avant la crise. Là, on est à 45%. C'est votre premier coût d'exploitation. Alors, il y a deux solutions. Soit vous faites des marges et vous absorbez. Soit vous ne faites pas de marge et vous n'absorbez pas. Or, il faut savoir que dans le transport aérien, contrairement à une idée quand même assez reçue, sauf quelques compagnies, dont Ryanair, qui a des marges, je le rappelle, à peu près de LVMH, de l'ordre de 15%, résultat net, si vous laissez de côté quelques compagnies, c'est un secteur où les marges sont quasiment, peut-être pas nulles, mais 3%, 4%. Donc vous n'avez pas le choix. Si vous avez un choc qui affecte votre principal coût de production, coût d'exploitation, vous reportez dans les prix. Alors si vous reportez dans les prix, qu'est-ce qui se passe? En particulier sur le court moyen courrier, la demande, elle est élastique au prix. Et là, on parlait de monsieur et madame Irma tout à l'heure. C'est pas monsieur ou madame Irma, c'est de la bonne vieille économie qui marche. C'est comme la demande
est élastique. Là, c'est le consommateur qui va parler.
La demande est élastique. On est sur, typiquement, intra-Europe, c'est de la clientèle essentiellement qu'on appelle touristique ou affinitaire. Soit elle renonce à voyager, soit elle voyage moins loin, soit elle prend sa voiture, soit elle prend le train. Donc mettez-vous à la place d'une compagnie typiquement low cost ou pas qui fait de l'intra-Europe, Transavia, vous avez un choc de coût qui va nécessairement se transposer en choc de prix du billet. La demande va baisser, vos avions ne sont pas remplis, or dans l'aérien, comme on gagne très très peu par siège, le seul moyen d'être rentable, c'est de remplir l'avion. Ce qu'on appelle le load factor, le taux de remplissage. Donc à la fin, que prédisent les compagnies aériennes sur certaines lignes? Ils savent que les vols ne seront pas rentable. Donc, ils préfèrent les annuler. Mais ils n'annulent pas parce qu'ils manquent de carburant. Ils annulent...
Par rentabilité.
Parce qu'ils savent que le load factor, ce qu'on appelle le load factor, sera en dessous de 85%. Si vous ne remplissez pas votre avion à 85%, au moins, vous n'êtes pas rentable. Donc, vous voyez, c'est pas un choc dû au manque de kérosène. C'est qu'ils savent, et on le voit déjà, il y a des destinations qui sont complètement fermées. Qui va aujourd'hui en Égypte? Personne. Donc, si vous aviez prévu un vol Transavia Orly, Le Caire, vous annulez. Alors, annuler, ça ne veut pas dire que la personne ne peut pas, bien sûr, être remboursée. Il y a un droit européen assez protecteur des passagers. Hein. C'est un autre sujet. Mais attention avec les mots. À date, il n'y a pas de pénurie au sens on n'annule pas des vols parce qu'on manque de pétrole. Il peut y avoir des pénuries très localisées. Dans ce cas-là, ce que font les compagnies, c'est qu'elles font ce qu'on appelle plus d'emport. Hein. Sauf que les règles européennes vous contraignent sur l'emport carburant pour des raisons environnementales. Il faut peut-être assouplir ça. Hein. Permettre à une compagnie de partir le matin pleine, justement parce qu'elle peut anticiper que dans l'aéroport d'arrivée, je sais qu'il y a eu quelques soucis notamment à Venise, dans l'aéroport d'arrivée, il y aura ce qu'on appelle des rationnements. Mais attention à ne pas jouer avec les mots. À date, il n'y a pas pénurie, même au sens juridique. Je crois que l'Europe a qualifié de situation de pénurie. Moins de 23 jours. Moins de 23 jours. On n'en est pas là. Donc attention.
Là, c'est la vision secteur aérien. Et merci pour l'explication, Emmanuel, parce qu'elle a permis de comprendre que les probables annulations, alors malheureusement, en période de saison estivale, hein, ce qui va avoir des conséquences.
On parle de 2%. Alors, en comparaison, en valeur absolue, ouais. Ça fait beaucoup de vols.
Oui, ça va faire ça. Un peu plus prononcé en Asie, d'ores et déjà, quand même, parce que l'Asie est touchée plein. En revanche, structurellement, et ça nous emmènera après sur le dossier suivant sur l'industrie, ce que fait apparaître aussi cette question, c'est une question de souveraineté.
Ah, mais incroyable. C'est ce que disait Guillaume. Ce qui m'a
en France, il ne reste que 4 raffineries.
Il y a un seul.
Qui font du kérosène à peu près, quoi.
Il y a un seul pays en Europe qui a réussi à maintenir ses raffineries dédiées aux jets, c'est l'Espagne. Oui. Et en fait, on est complètement dépendant des imports. Et alors, c'est ça qui est incroyable, c'est que non seulement on est dépendant des imports, mais on n'a pas de substitut. Parce que les Américains, c'est essentiellement pour leur marché domestique. Alors, ils exportent un peu plus vers l'Europe. Et alors, tenez-vous bien, tous les autres pays qui étaient producteurs et qui exportaient ont décidé de suspendre les exportations. La Thaïlande, la Chine, la Corée du Sud. Donc, vous voyez, finalement, l'Europe est complètement coincée. Non. Et je rejoins Guillaume, je finis juste là-dessus. Oui. On s'aperçoit que même là, le kérosène, finalement, on a perdu une forme de souveraineté. Là où je suis pas tout d'accord avec Guillaume, c'est que je pense qu'il y a d'autres sujets sur lesquels on est très souverain et on a même une puissance qu'on n'utilise pas.
Je m'en réjouis à l'avance, mais sur le raffinage, je ne parle pas du jet. Sur le raffinage, vous vous souvenez de toutes les grèves qu'on a eues dans les raffineries Total, etc. Donc, les gens de Total, ce sont des saints d'avoir continué à avoir des raffineries. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Esso avait historiquement une société de raffinage qui était cotée. Hop, ils l'ont revendue. Personne ne veut être otage permanent. Donc, on voit bien l'effet de substitution qui se passe. C'est-à-dire que si on n'arrive plus, pour des raisons d'idiosyncrasie française, à produire, enfin bon, sinon c'est le port de Marseille, si on veut prendre un autre exemple. C'est-à-dire qu'on perd du terrain à chaque fois.
Jean-Marc, sur cette question de souveraineté.
Oui, ce qui m'inquiète dans le discours sur la souveraineté, c'est que c'est la façon d'être protectionniste tout en étant bien gentil et vertueux, parce que protectionniste, ça fait rassemblement national, ça fait ringard, mais souveraineté, c'est déjà beaucoup mieux. Quand il y a du libre-échange, effectivement, il y a des avantages comparatifs et on fait plus tout, on se spécialise et on est dépendant de ces fournisseurs qui cessent d'être des fournisseurs nationaux. Alors, là aussi, sur le commerce international, je cite assez souvent le trilingue de Danny Roderick, vous savez, il dit on peut pas avoir trois choses à la fois, on peut pas avoir la démocratie, on peut pas avoir le pouvoir d'achat et on peut pas avoir la souveraineté. Et donc chaque modèle, on peut avoir donc la souveraineté et la démocratie, il n'y a pas de pouvoir d'achat, ce sont les États-Unis, donc effectivement, on maintient le pouvoir d'achat par du déficit budgétaire, par des déficits colossaux et les capitaux vont aux États-Unis parce qu'effectivement, aux États-Unis...
Et l'Europe est dans quelle posture, alors dans ce jeu à trois?
Oui, alors ça c'est les États-Unis. Il y a la Chine, il y a la souveraineté, et puis là aussi, on organise la distribution des revenus de façon à calmer la population, donc il n'y a pas la démocratie. Et Danny Roderick dit, l'Europe, elle a choisi quoi? Elle a choisi le pouvoir d'achat, c'est-à-dire elle a choisi la liberté, choisi la démocratie, donc elle a perdu la souveraineté. Et Danny Roderick dit, chacun fait son choix en fonction de ses critères. Et moi, j'ai fait mon choix. Je pense qu'il vaut mieux choisir la démocratie et le pouvoir d'achat que la souveraineté. Et donc, deuxième remarque que je ferai sur le kérosène et tout ça. Effectivement, il y a des compagnies aériennes qui vont souffrir, mais j'ai entendu à une certaine époque quelqu'un qui avait fait le buzz autour de ça, qui avait dit si on veut sauver la planète, arrêtez de prendre l'avion, il faut donner 4 billets d'avion. Jean-Marc Jancovici, 4 billets d'avion par personne pour toute leur vie. Et donc il faut que les compagnies aériennes, et donc il disait c'est un peu ce que dit Schumpeter, c'est de la destruction créatrice, la destruction de demain, elle sera dans certaines formes de transport et la création se fera dans d'autres formes de transport. Alors, il y a un aspect conjoncturel, mais je pose aussi la question de savoir est-ce que ce n'est pas une occasion aussi, cette crise, de préparer un avenir qui sera un avenir où il faudra moins prendre l'avion. Quand vous dites la saison touristique va être catastrophique, il y a aussi...
On ne dit pas, en tout cas.
Oui. Il y a d'abord pas d'avenir, on ne sait pas. Ouais. Et puis ensuite, il y a un moment où on peut se poser la question de savoir est-ce que la saison touristique, ça suppose systématiquement de détruire la planète en étant dans l'avion.
C'est la dernière chose chose qui marche en Europe, c'est le tourisme.
Ludovic, oui, mais on n'est pas obligé de le faire par l'avion.
Quand même. Quel était l'avantage compétitif de l'Europe.
Quand on va en Thaïlande,
ça crée naturellement des effets nuisibles parce que ça fait trop de monde à Venise, de la pollution. Mais c'est la seule chose qui marche.
Il n'y a pas que ça qui marche.
Le tourisme et l'hôtellerie française.
ASML, c'est pas le tourisme. Juste une remarque par rapport. Il n'y a qu'une chose qui marche.
Attendez, parlez pas tous en même temps parce que sinon nous.
Il y a juste une remarque par rapport. Il n'y a qu'une chose qui marche. Je rappelle quand même, quand on regarde la balance des pays en courant, l'Europe est quand même l'endroit qui gagne le plus.
Non.
L'Europe continue à améliorer sa situation de balance des paiements courants. Les États-Unis sont en train d'être, c'est le pays en faillite. Vous savez, ça me fait penser les États-Unis à cette formule de leur deuxième président qui disait à la conclusion. Alors là aussi, c'est pas Galbraith, c'est le deuxième président des États-Unis. Je suis arrivé à la conclusion que il y a que deux façons de détruire un pays, c'est la guerre, la dette. Alors les États-Unis, c'est quoi? C'est la guerre et la dette.
Et nous, on a alors, la dette et on voudrait faire la guerre.
Emmanuel veut réagir. Emmanuel.
Non, mais par rapport à ce que disait Jean-Marc, la souveraineté, c'est pas binaire, c'est pas souveraineté égale protectionnisme versus je fais un autre choix. On peut faire le choix du libre-échange et se diversifier. Finalement, l'erreur qu'on a commise, me semble-t-il, c'est d'importer la moitié de notre jet, de notre carburéacteur, des pays du Golfe. Rien ne nous empêchait. On retrouve le même débat qu'avec au moment du Covid. Hein.
Et du gaz russe.
La diversification, c'est très intelligent, c'est pas du protectionnisme, c'est du libre-échange, puisque j'importe mes produits, simplement je diversifie mon risque comme on le fait en finance. Donc attention, c'est pas binaire, c'est pas est-ce que je produis moi-même mon kérosène versus je suis dépendant du détroit d'Hormuz. Pardon, qu'a-t-on fait à nouveau pour ne pas diversifier nos sources d'approvisionnement? Moi, je suis effaré de voir qu'en réalité, la moitié.
Vous l'expliquez aujourd'hui, Emmanuel? C'est quoi? C'est un impensé?
Non, j'ai pas l'explication, mais, enfin, pour moi, le contrefactuel, c'est pas forcément, faire revivre des usines de raffinage en Europe. Ouais. Non, c'est peut-être se diversifier géographiquement. Or, elles existent, les capacités de production ailleurs. On aurait pu conclure des contrats à long terme avec les Américains, avec les Coréens.
On va le faire.
Bah si elles existent. Pour l'instant,
les capacités de production existent, on ira les chercher.
Non, mais vu les tensions en Asie actuellement.
Il y a des restrictions des.
Il y a pénurie ou il n'y a pas pénurie?
En Asie,
il y a des situations de pénurie.
En Asie, il y a des tensions. Enfin, les marchés sont refermés.
Alors attention, ils ont arrêté d'exporter. La saison touristique n'est pas morte. Hein, quand vous interrogez les compagnies aériennes, elles vous disent en fait les consommateurs sont très attentifs. Ils sont comme nous. Ouais. Ils se disent si ça dure, on changera nos plans. Et là, en effet, il y aura des annulations de vols massives. Et si ça ne dure pas, pensez bien, les avions seront pleins. Oui. N'oubliez jamais que dans France Paris 1, c'est important pour nos auditeurs, ce qui drive le trafic aérien depuis 50 ans. Vous prenez toutes les équations économétriques que vous voulez, ça n'est pas le prix, c'est le revenu. On voyage parce qu'on devient plus riche. Et ça s'appelle, en économie, de l'élasticité revenu. L'élasticité revenu dans le France Paris 1, elle est de l'ordre de 1,5. Ça veut dire que si vous gagnez 10 de plus, vous allez consommer 15 de plus. Je ne dis pas que le prix ne joue pas, mais le premier déterminant du transport aérien, c'est les revenus. Or, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de pays qui sortent de la pauvreté, qui deviennent même des pays riches. Regardez, le trafic aérien a explosé en Chine. Pas pour des raisons de prix, pour des raisons de revenus. Donc attention, le prix n'est pas le premier déterminant, n'est pas le premier facteur du fait de voyager ou pas.
Alors, je vous propose de glisser sur le dernier sujet, hein, qui est connexe, puisqu'on rejoint un peu la logique de souveraineté, mot banni par, j'ai bien compris, par Jean-Marc.
C'est la façon élégante. Mais... Je ne suis pas protectionniste, non, je suis pour la souveraineté.
Je resitue juste, hein, donc début mars, il y a eu la présentation, notamment par Stéphane Séjourné, du plan d'accélération industrielle européenne, avec le fameux Made in Europe, avec certaines mesures, des pourcentages de parties produites en Europe, plus des mesures de protection en termes d'entrée au capital,
de protection.
Voilà. Le temps est passé et là, Pékin a envoyé une missive à Bruxelles en début de semaine. On pouvait s'y attendre.
Oui.
Alors, missive pas trop acide à ce stade-là, honnêtement, quand on la regarde, mais en disant quand même, il y a de la discrimination. Et chers amis, si on continue sur cette logique-là, on va parler de contre-mesures. Donc, ce débat-là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il traduit? L'Europe devient enfin courageuse et doit se préparer à rentrer dans un affrontement avec la Chine, ou est-ce qu'on s'y prend mal?
Je ne sais pas si on s'y prend bien ou mal. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'on a manqué de lucidité, parce que les Chinois, ils ont annoncé la couleur depuis à peu près 2010, quand ils ont fait un plan à 15 ans, pour expliquer que sur à peu près les 10 industries qui leur semblaient majeures pour la décennie 2020-2030, ils voudraient être les leaders. Donc, pour donner quelques chiffres, la production industrielle chinoise, c'est environ 30% de la production industrielle mondiale. Les États-Unis, sauf à ce que Jean-Marc me corrige, à peu près 20, et l'Europe, je pense qu'on est en train de passer sous les 15. Bon, donc déjà, la Chine, c'est deux fois l'Europe, même si on a quelques avantages compétitifs de ci, de là. Et dans certaines industries, la capacité de production chinoise, elle peut être de 110% de la demande. Je sais pas, sur les climatiseurs, ils peuvent produire plus de climatiseurs que toute la planète en voudrait.
Surcapacité.
Surcapacité et nombreux. Et pour simplifier vraiment un peu outrageusement, la Chine, c'est à la fois cette notion du plan stratégique, mais dans l'exécution du plan stratégique, et ça ressemble presque aux États-Unis, on laisse partir tout le monde et puis à la fin, on garde les meilleurs. Est-ce qu'on les aide, on les aide pas?
Ce qu'on voit dans l'automobile, notamment.
Avec une rapidité sur l'automobile, on peut pas dire qu'on a vu arriver le coup. Hein. Dans les pays du Sud, si vous allez dans les pays du Sud, maintenant, les importations, je pense que la part de marché chinois sur l'automobile, elle est colossale. Les Japonais se sont fait déborder. Les Japonais avaient débordé
les Européens.
Les Européens. Et si vous allez en Chine, vous voyez encore deux, trois Mercedes, Audi, je ne sais pas, on n'en voit plus une. On ne voit que des magnifiques voitures chinoises. Donc, leur capacité.
Ce que vous êtes en train de dire, Guillaume, c'est qu'il était temps que l'Europe se réveille.
Et que. Non, mais je ne sais pas si elle doit être réveillée. Je finis juste, pardon, Emmanuel, je finis. C'est de dire, un, c'est une réalité. L'industrie, ça va être une industrie numérique. Les usines de BYD, il n'y a pas d'ouvriers. Donc, l'automobile, je ne sais pas si elle sort en deux minutes, trois minutes, mais quasiment personne ne lui a dit bonjour à la voiture. Il y a peut-être un gars qui met un petit coup de chiffon, mais je ne suis pas sûr à la sortie. Donc, si on a perdu la guerre numérique, où sont les IA? Il y a Mistral, c'est formidable, mais enfin, et on a un fabricant de machines de lithographie ASML, mais tous les producteurs de semi-conducteurs, l'essentiel est ailleurs. Et si un jour la Chine, sans forcément par violence, attrape Taïwan, elle a vraiment gagné. C'est la guerre des robots, de l'IA. Si vous allez en Chine, on voit plus que des robots. Et donc, ce débat, et tout, c'est bien qu'on soit réveillé, mais...
Alors, pour moi, il y a deux sujets complètement différents. Il y a pourquoi on s'est cassé la figure, pardon, en termes de désindustrialisation en Europe depuis 30 ans. Ça, c'est pas la faute de la Chine, hein, c'est notre faute. Ben, c'est le rapport Draghi.
On a alimenté, quand même.
C'est le rapport Draghi. Et pour le coup, je trouve que la solution qui consiste à dire on va imposer des normes de contenu local, je vais y revenir si vous voulez plus tard, c'est typiquement la fausse bonne idée. Donc, elle adresse un vrai problème, mais avec une mauvaise solution. Pardon, je le fais vraiment de manière très courte. En quoi imposer l'achat de produits made in Europe permet de remonter la chaîne de valeur? C'est même l'inverse, ça va vous cantonner dans une forme de petite rente, hein, puisque finalement vous réservez. Ce qu'il faut, c'est avoir les meilleurs composants, les meilleurs produits, et pas des produits européens. C'est pas made in Europe qu'il faut, c'est made with Europe. Donc pour moi, la solution, c'est faire des partenariats avec ceux qui savent. Et dans l'automobile, on est en retard, et vous pouvez faire tout le contenu local que vous voulez, vous resterez en retard. Donc pour moi, il y a un premier sujet, c'est l'Europe a décroché, Draghi nous l'a dit, parce qu'on n'a pas assez investi en R&D, éducation, etc. Ça, ça a rien à voir avec la Chine, d'accord? Et on adresse le problème en le prenant en aval. On dit, ben voilà, on va réserver des marchés, notamment des marchés publics. Et du coup, ça nous fera de la demande. Et si ça fait de la demande, ça fera de la demande, mais pour des produits qui sont à quel niveau technologique? Ça va faire monter les prix. Et les coûts pour qui? Quand je dis les prix, c'est pas pour les consommateurs. Ça va faire monter les coûts de production pour d'autres industriels. Et paradoxalement, ça peut affecter la compétitivité de l'industrie européenne. Donc, premier sujet, on a décroché. Je vois pas en quoi imposer des normes de contenu local aide à rattraper. Je pense même que ça va nous cantonner dans une forme de trappe. Puis un deuxième sujet. C'est la Chine, Guillaume a raison, elle a des surcapacités et la demande interne est à tonnes. Donc, leur seul débouché, c'est l'exportation. Et on est victime de concurrence, en effet.
Avec les États-Unis qui se sont fermés.
Exactement.
Par ailleurs.
Et on est victime de concurrence déloyale.
Semi-fermée.
On est victime de concurrence déloyale. Alors là, je ne vais peut-être pas me faire des amis. En plus, on fait une erreur. Parce que les normes de contenu local, c'est contraire aux règles de l'OMC. Alors j'entends les cris d'onfray en disant, mais quel naïf, c'est Emmanuel, il croit encore que l'OMC existe. D'abord, oui, elle existe. Et surtout, il faut faire comme avec Trump. Il faut jouer le jeu de la Chine. La Chine vous dit quoi? Elle vous dit, moi, je tiens à l'OMC. La preuve, elle a accepté, c'est un peu technique, hein, de faire partie d'un panel. Vous savez que l'organe de règlement des différends ne marche pas. Mais c'est pas vrai. En fait, on a créé un truc à côté dont fait partie la Chine. Elle accepte donc qu'on conteste des décisions. Eh bien, moi, je prendrais la Chine au jeu. Puisque vous dites que vous respectez les règles de l'OMC, eh bien nous, on va les respecter, on ne va pas faire du contenu local, c'est interdit contenu local, c'est contraire aux règles de l'OMC. Par contre, on va vous poursuivre, parce que vous subventionnez votre industrie. Or ça, c'est dans les règles de l'OMC, c'est tout ce qu'on appelle les procédures anti-subvention. On l'a fait sur les véhicules électriques, avec les 30%. On va vous poursuivre parce qu'on est victime de dumping. Il y a une réglementation anti-dumping. Je vais le dire autrement, on a déjà des instruments qui nous permettent de nous protéger. Tiens, troisième instrument, les clauses de sauvegarde. On vient de les activer sur l'acier. Si les importations progressent trop vite, c'est les règles de l'OMC. Il faut toujours jouer le jeu de son adversaire. Je les prendrai au mot. Alors que là, la Chine a beau jeu de dire, mais en fait, les normes de contenu local, c'est en effet, au sens juridique du terme, une discrimination. Je rappelle que les règles de l'OMC interdisent le contenu local, sauf pour les marchés publics, mais pas pour les subventions et pas pour les investissements directs étrangers. On lui donne une arme pour se faire battre. Donc moi, je pense qu'il faut jouer le jeu de son adversaire, c'est-à-dire de dire, très bien, vous êtes membre de l'OMC, nous aussi, ça tombe bien, on va vous poursuivre sur toutes les subventions que vous octroyez à vos industries. Je pense que c'est beaucoup plus efficace qu'une norme de contenu local.
Jean-Marc, est-ce que l'Europe se fourvoie dans la méthode?
L'Europe se fourvoie. Je pense que l'Europe, jusqu'à présent, encore une fois, je pense que dans le triangle de Rodrigue, le fait qu'on n'a pas choisi le même schéma que la Chine, mais qu'on a choisi la démocratie, c'est plutôt une bonne nouvelle. Faire de la Chine un modèle et un exemple, ça m'inquiète beaucoup. La deuxième remarque que je ferai, c'est que les Chinois disent aussi que c'est la première fois dans l'histoire que la zone qui est avec la plus en excédent extérieur réclame des mesures protectionnistes. C'est quand même assez aberrant. Parce que l'Europe dégage le plus d'excédents extérieurs. Le troisième élément que je mettrai en avant, c'est que le Japon, dont on a parlé, effectivement, le Japon maintenant a un déficit commercial qui est égal à celui de la France. C'est vous dire l'ampleur des dégâts. Parce que faire aussi mal que la France, vous regardez l'excédent extérieur du Japon, c'est 200 milliards de dollars. Pourquoi? Parce que le Japon, il a fait la stratégie que Moumaï, que je recommande. Ils l'ont pas fait à Moumaï, ils l'ont fait en Indonésie. Le grand discours, quand même, c'est de dire, des Indonésiens, c'est de dire, écoutez, après tout ce qu'ils nous ont fait, les Japonais, on est entre 40 et 45, on a quand même compris que c'est en allant chercher leur épargne qu'on se développerait. Et donc, on a parlé d'erreurs et tout ça, mais en fait, ça fait quand même 25 ans que Serge Thureux nous a dit les usines, elles ne seront plus en Europe. En Europe, il n'y a plus de gens pour travailler. En Europe, il y a des gens dont il va falloir s'occuper parce que la population a vieilli. En Europe, il y a de l'épargne. Il faut mettre l'épargne dans les endroits où ça rapporte. Donc, la vraie stratégie, c'est ni le protectionnisme, ni la fascination pour les totalitaires de Pékin. La véritable solution, c'est de dire, on va dégager notre épargne, utiliser notre épargne pour aller dans les endroits où il y a de la croissance. Bon. C'est-à-dire, en Inde, je vais prendre juste un exemple. Quels sont les deux pays qui détiennent le plus le reste du monde à l'heure actuelle? C'est l'Allemagne et le Japon. Et donc, ce sont ces pays qui ont eu une stratégie qui était une stratégie d'adaptation à la réalité de leur population. C'est-à-dire, ils sont en train de construire la silver economy, parce que l'enjeu, c'est pas de refaire l'industrie du 19e siècle, de répondre aux attentes de la population.
Allez, il nous reste 3 minutes, Guy.
Intellectuellement, bien sûr que Jean-Marc Daniel a toujours raison.
Bon, oui, c'est voilà, vrai. Jean-Marc. Je sais.
Edgar Faure disait.
Soyez modeste, Jean-Marc.
Edgar Faure disait, c'est embêtant, mais j'ai toujours raison.
Voilà. Alors, vous connaissez la phrase de Yogi Berra. En théorie, la théorie et la pratique, c'est la même chose, mais en pratique, pas toujours. Donc, en pratique, ça va demander un moment d'adaptation extrêmement complexe. Et quant au Japon, qui est un pays très fermé du point de vue des mouvements de population, qui a une acceptation, c'est une démocratie, mais enfin, ça a quand même un caractère un peu obéissant de nature. Donc,
Par rapport à la Chine, c'est une vraie démocratie, le Japon.
Mais je ne la mets pas en cause. C'est bien sûr une démocratie, mais une démocratie qui arrive assez vite à des consensus beaucoup plus facilement que les démocraties européennes, qui sont confrontés à une phase de populisme. Et donc, pratiquement, pas intellectuellement, les populations ne comprendront pas qu'il va y avoir beaucoup moins d'emplois, pas besoin de revenir en arrière, même si le taux de chômage ne monte pas trop. On est dans une situation assez difficile en Europe. C'est pour ça que l'industrie du tourisme, l'industrie des EHPAD, c'est clé, parce que ça emploie. L'industrie de la sécurité, ça emploie. Sur l'industrie tout court, on a quelques zones d'excellence, mais elles sont de moins en moins. Et la vague du luxe n'est pas aussi porteuse qu'elle a été, de toute manière ne peut pas assurer l'emploi industriel. Donc, il faut faire de l'industrie, oui, il faut essayer de se défendre un peu contre la Chine, oui, mais ça va être il faut pas se faire d'illusions. Dans 10 ans, on produira presque plus rien par rapport à la Chine. La Chine, c'est l'usine du monde.
Ah, non, Jean-Marc, je voudrais écouter juste une chose. La Chine, je pense que moi, j'y arriverai pas, mais j'ai connu la Chine à 700 millions d'habitants. Je pense que mes enfants connaîtront la Chine à 700 millions d'habitants.
Oui, mais avec les robots,
et donc,
ça n'a aucune
importance. Chine ne sera plus l'atelier du monde, c'est déjà fini, la Chine. Mais sur le plan démographique, l'avenir est en Inde, il est en Indonésie,
non,
il est dans ces pays-là.
C'est plus les personnes.
Il y a un problème conceptuel,
c'est que l'industrie va être une industrie numérique, ça n'a plus rien à voir avec le nombre de personnes.
Ouais. Non, mais il faut que des gens qui passent l'aspirateur dans les usines.
Jean-Marc, il y a 30 secondes, vraiment.
Il y a deux problèmes. Le problème de l'Europe, c'est qu'elle ne sait pas utiliser sa force. Et c'est là que je ne suis pas du tout d'accord avec Guillaume. L'Europe a
des arguments.
Les Américains sont aussi dépendants de l'Europe, pas seulement avec ASML. Regardez tout l'écosystème téléphonie. Nokia, Ericsson, vous n'avez pas d'équivalent aux États-Unis. Simplement, on n'ose pas utiliser dans la négociation. Il faut faire du Trump, à nouveau. Trump vous dit, j'ai un problème avec vous sur le numérique, je vous mets des droits de douane. Il faut faire la même chose. Il faut globaliser la négo. Et deuxièmement, n'oublions pas que pour les Chinois, on est le premier débouché à l'exportation. Ça s'appelle une force énorme. Donc, en fait, le problème de l'Europe, c'est qu'elle n'utilise pas ses atouts. Je ne suis pas en train de dire que l'Europe a une souveraineté absolue, mais dire que l'Europe n'a aucun levier de négociation, je pense que c'est relativement, à mon avis, c'est relativement caricatural. Il n'y a pas que ASML. Il y a pas mal d'écosystèmes. Simplement, l'Europe ne sait pas. L'Europe, elle discute en verticale. Elle est trop bonne élève.
Trop sage.
Trump nous dit qu'il faut faire du transversal. Eh ben, on va y aller. Moi, vous savez, je l'ai toujours dit, hein. Il aurait fallu dire à Trump, tout déficit commercial est injuste, c'est vous qui nous le dites. Ben vous savez quoi, on a un déficit commercial avec vous sur le numérique, sur les services numériques, on va vous les taxer.
Enfin, on rentre dans une période de tension, puisque ces tensions commerciales peuvent déboucher, quand on a des problèmes d'approvisionnement, on voit bien la tension, on est dans une espèce de guerre mondiale larvée, je pense qu'on va vers des temps très très difficiles.
Merci Guillaume, merci Emmanuel, merci Jean-Marc, super débat, et j'espère qu'on prolongera, notamment sur la Chine, mais je crois qu'il y aura d'occasions. Vous pouvez retrouver cette émission en replay sur les plateformes de BFM, BFM Business, RMC. Tout de suite, c'est Tout pour investir avec Étienne Braque, et puis on se retrouve demain, évidemment, pour les experts. Bonne journée, salut.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business.